Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Voyez votre Esprit, Seigneur, se faire une création nouvelle et vous renouvellerez la face de la terre. Prions, ô Dieu qui avez daigné envoyer votre Esprit sur ce monde, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, de jouir sans cesse ces divines consolations par le même Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pédis, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Saint Jérôme, priez pour nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, nous sommes donc au début de ce commentaire des Pères de l'Église sur l'Évangile de selon Saint Jean. Nous en sommes au chapitre 1er, au verset 5. Et la lumière luit dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas saisie. Donc sur le polycopier qui contient les commentaires pour les chapitres 1 à 5, nous en sommes à la page 8, au milieu de la page, au cinquième paragraphe de la page 8. Donc voilà le commentaire, le verset que nous étudions. La lumière luit dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas saisie. Cette lumière est évidemment la lumière lumière du monde, la lumière du Créateur et du Rédempteur du monde, la lumière de notre Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que le Christ, nous disent les Pères, vint pour ouvrir les yeux qui avaient été aveuglés par le démon. Le démon donc entraîne chez nous, quand on commence à accepter la présence du démon dans notre âme, cela va entraîner une cécité intellectuelle, une cécité spirituelle plus exactement. Et cette cécité spirituelle va nous empêcher de voir la lumière. Le Fils de Dieu, pourtant, est présent partout. Il est présent, je vous l'ai déjà expliqué plusieurs fois, d'après saint Thomas, par sa présence, par son essence, par sa puissance. Donc, il est présent même dans une âme qui vit en état de péché mortel d'une certaine façon. Pourquoi? Parce qu'il maintient cette âme dans l'existence. Si Dieu n'était pas présent par son essence dans l'âme qui vit en état de péché mortel, cette âme disparaîtrait immédiatement, puisque par sa présence, par son essence dans l'âme, Dieu est cause de toute chose. Donc il reste cause de l'existence d'une âme, même si celle-ci vit dans le péché mortel. Cependant, évidemment, il ne va pas rentrer dans une âme au sens substantiel du terme qui vit dans le péché mortel. Donc, voilà ce que disent les Pères. Le Fils de Dieu est présent même dans les esprits des mauvais, bien qu'il ne le voie pas, de la même façon que la lumière qui brille sur l'aveugle n'est pas vue par lui. L'aveugle ne peut pas voir la lumière, pourtant la lumière brille indépendamment de l'aveugle. L'homme pécheur qui vit dans le péché mortel jusqu'au cou a été créé par Dieu. Il ne peut être acheté que par Dieu. Donc Dieu est en cause de tout, il est cause de l'existence, du maintien dans l'existence de cette âme qui pourtant malheureusement vit dans le péché mortel. Cette cécité spirituelle, ce qui fait que nous sommes un petit peu comme des taupes spirituelles, ou comme des hiboux, si vous voulez, sont incapables de voir la lumière, pourtant qui est juste devant notre nez, tout simplement parce que cette cécité spirituelle entraîne une impossibilité, une perte, plus exactement une perte d'espérance dans le bon Dieu. N'ayant plus espérance dans le bon Dieu, ben on se décourage, nous décourageons, mais évidemment nous devenons incapables de retrouver la grâce sanctifiante par une bonne confession, un acte de contrition parfaite. Donc la lumière du Verbe, voilà ce que disent les Pères, la lumière du Verbe brille dans l'obscurité des mauvais par la lumière de la raison, par les voix des créatures qui crient qu'il y a un Créateur qui doit être adoré et aimé. C'est pour ça que strictement parlant, il est impossible pour quelqu'un d'être un athée complet. Mais c'est ce qu'il faut comprendre et qu'on oublie beaucoup trop. Beaucoup de nos fidèles ont du mal à comprendre ça. Je ne sais pas très bien pourquoi, mais j'ai remarqué que c'est comme ça. Il faut comprendre que tous nos adversaires, prenez par exemple le gouvernement français qui est très très anti-catholique, mais même quelqu'un comme Macron, je suis persuadé qu'il croit en Dieu. Il croit en Dieu. Et s'il ne croyait pas en Dieu, il ne lutterait pas contre lui comme il le fait à longueur de journée. Quelqu'un comme Bergoglio lutte contre l'Église catholique traditionnelle, lutte contre notre Seigneur Jésus-Christ, donc bien la preuve qu'il croit en lui. Si Macron ne croyait pas en Dieu, il ne se donnerait même pas la peine de lutter contre Dieu. Si Macron ne croyait pas en la grandeur de la famille chrétienne, il ne perdrait pas son temps à lutter contre la famille chrétienne pour essayer de la dissoudre, de la détruire complètement. Si Macron ne croyait pas en l'existence des limbes, je dirais, pour les enfants qui meurent sans baptême, il croyait qu'il se donnerait la peine de faire des avortements, de laisser l'avortement se développer en France à raison de 150 000 assassinats tous les ans. Il fait ça parce qu'en fait, il sait très bien, ils ont la loi naturelle. La loi naturelle existe pour tout le monde, y compris pour Bergoglio et Macron. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Donc quand je lutte contre Dieu, quelqu'un qui lutte contre Dieu, il lutte contre un Dieu qui existe vraiment dans son esprit au moins. On ne lutte pas contre quelqu'un qui n'existe pas. Donc si Macron, Bergoglio ne croyait pas en Dieu, il ne s'occuperait même pas de lutter contre Dieu. N'oubliez pas que le pire ennemi de Dieu actuellement, je pense que c'est pas Macron, je suis sûr que c'est Bergoglio. Je sais que je choque peut-être certaines personnes à dire cela, mais je crains beaucoup plus Bergoglio dans son combat contre l'Église catholique qu'il mène depuis qu'il est arrivé au siège de Pierre, de façon indue. Est invalide, mais il est quand même, il occupe le siège de Pierre, je dirais. Mais il lutte contre Dieu précisément parce qu'il croit contre Dieu. Encore une fois, on ne lutte pas contre quelqu'un qu'on ne croit pas, si on ne croit pas que cette personne existe. Et donc, même chez un païen, quelqu'un qui se prétend païen, la lumière de la loi naturelle est là. La lumière de la loi naturelle est là. Je vais prendre un exemple pour vous aider à comprendre ce que j'essaie de vous faire comprendre avec des mots peut-être un peu hésitants. Je m'excuse, c'est pas très facile de parler de ces choses-là. Est-ce qu'il est possible pour une femme d'avorter, de tuer son propre enfant, sans savoir qu'elle fait quelque chose de mal? La réponse est non. Ce n'est pas possible parce que la loi naturelle est là qui lui dit tu ne tueras pas. Et donc même la pire des féministes, même ces féministes endiablées qu'on nous présente comme exemple maintenant en longueur de journée au moins en France, eh bien qui sont à fond pour l'avortement, elles savent très bien ce qu'elles font quand elles tuent leur enfant. Elles savent qu'elles tuent un enfant. Elles savent que l'être qu'elles éliminent dans leur sein n'est pas un bout de chair, un bout d'ongle, mais un enfant. Elles le savent. Pourquoi? Parce que la loi naturelle est là. La loi naturelle est valable pour tout le monde, même pour les païens. Il n'y a pas besoin d'être en état de grâce pour reconnaître qu'il y a une loi naturelle. Je ne tuerai, tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne mentiras pas, tu ne prendras pas le bien du voisin, tu ne prendras pas la femme de ton prochain. C'est la loi naturelle, et cette loi naturelle, elle brille dans toutes les âmes, y compris dans les âmes de ceux qui ne sont pas baptisés, ou dans les âmes des baptisés qui vivent dans le péché mortel, ou dans les âmes tout simplement qui vivent dans le péché mortel. C'est pour ça que les pères disent, j'aime bien cette phrase, la lumière du Verbe brille dans l'obscurité même des mauvais, par la lumière de la raison, par la voix des créatures qui crient qu'il y a un créateur qui doit être adoré et aimé. Il suffit de se promener sous un ciel étoilé dans une belle nuit d'été, de voir la magnificence de la création avec ces milliards et millions d'étoiles qui percent le ciel, d'avoir un minimum d'intelligence pour se dire. Il n'est pas possible que ces choses-là soient faites toutes seules. Il suffit de voir l'ordre qui règne dans le monde. Ce sont les cinq preuves de saint Thomas qu'il suffit de reprendre. Il y a un mouvement dans le monde, il y a un ordre dans le monde, il y a une hiérarchie dans le monde, un ordre par exemple des saisons, un ordre des jours et des nuits. Eh bien, ces choses-là ne peuvent pas être faites tout seules. De la même façon qu'une montre ne peut pas apparaître sur mon bureau tout seul, de façon miraculeuse, il a bien fallu qu'un horloger la fasse, cette montre. Voilà ce que disent les pères, pardon, cette lumière, donc lumière divine, brille également par la loi naturelle imprimée dans l'âme par la loi nouvelle, par les Écritures, par les docteurs et les prédicateurs, par les saintes inspirations, par bien autre chose. N'oubliez pas, par exemple, c'est un détail, mais qui en dit long, Dieu a donné un ange gardien à tous les hommes, y compris aux païens, y compris aux pécheurs, y compris aux mauvais catholiques. Tous les hommes ont un ange gardien. Bon, les païens ne savent même pas qu'ils ont un ange gardien, pourtant ils en ont un. Et donc, l'ange gardien, la bonne conscience, va travailler même sur les âmes de ceux qui ne sont pas baptisés. Je sais qu'il y a des catholiques qui prétendent que l'ange gardien est donné à chaque individu au moment du baptême. À mon avis, c'est totalement faux. On n'a pas le droit d'enseigner ça. J'ai jamais vu cette vérité enseignée dans la doctrine catholique. L'ange gardien est accordé par Dieu à toute créature raisonnable qui vient dans ce monde. Donc, dès qu'un enfant apparaît au moment de la fécondation dans le sein de la mère, au moment de la fécondation, l'union des deux gamètes masculines et féminines, déjà il y a vie, s'il y a vie, il y a âme, et s'il y a âme, âme végétative, âme sensitive et âme raisonnable, donc il y a un ange gardien déjà qui est accordé par Dieu à cette âme, même si cette âme va être hélas, si ce petit bout de chou va être coupé en morceaux, écartelé par les ciseaux de l'avorteur au bout de quelques mois de grossesse, malheureusement. Une phrase de saint Augustin ici qui est très belle. Ne tombez pas dans le péché, le soleil ne cessera pas de briller pour vous. Mais si vous tombez, vous serez dans l'obscurité qui vous couvrira, vous deviendrez aveugle. Donc le péché entraîne une cécité intellectuelle, une cécité spirituelle. Car la lumière est céleste, d'une grande noblesse, la plus belle et la plus pure des choses naturelles. Elle est impassible et des plus actives. Elle ne peut être salie par l'impureté, même si elle est mélangée avec elle. Elle apporte la chaleur, la gloire et la joie. Elle permet aux choses d'être vues et donne vie et puissance à toutes les choses vivantes. Voyez-vous, ce qu'il faut comprendre, c'est que le péché détruit la grâce, mais ne détruit pas la nature. La nature demeure. Donc l'âme demeure active dans une âme qui vit dans le péché mortel. Et donc les qualités de l'âme demeurent. L'intelligence est donc toujours là. Même dans une âme qui vit dans le péché, même dans une âme qui est pas baptisée, même dans une âme de quelqu'un qui est ennemi de Dieu. Toute âme humaine a une intelligence, plus ou moins développée, mais toute âme a une intelligence. Donc toute âme ayant une intelligence a l'usage de la loi naturelle. Pour cela, encore une fois, qu'il n'est pas possible pour une femme d'avorter sans savoir au fond d'elle-même, même si elle prétend le contraire, qu'elle hurle le contraire à la face du monde, elle ne peut pas tuer son enfant sans savoir qu'elle fait quelque chose de coupable. De la même façon que quelqu'un ne peut pas voler le prochain sans savoir au fond de lui-même, même s'il n'est pas catholique et s'il ne vit pas en état de grâce, s'il ne sait, sans savoir qu'il fait quelque chose de pécamineux. Quelqu'un ne peut pas aller prendre à voler la femme de son prochain, même s'il n'est pas catholique, sans savoir qu'il fait quelque chose qui va contre la loi naturelle. Donc Dieu agit ainsi avec sa grâce. Le contraire de tout cela sera trouvé dans le péché, dont le symbole est l'obscurité. Donc le péché est à l'obscurité, ce que la grâce est à la lumière. La grâce conduit à la lumière éternelle et à la gloire, le péché à la plus profonde obscurité. Oui, donc les pères font bien cette distinction entre les différentes lumières. La lumière éternelle, la lumière de gloire. La lumière éternelle, la lumière de gloire, ce sont les mêmes lumières, c'est la même chose. La lumière de grâce et la lumière naturelle. Donc la lumière naturelle est incorporée à tous les hommes. La lumière de grâce est née dans l'âme que de ceux qui vivent dans le péché, dans l'état de grâce, et la lumière de gloire ne sera que pour ceux qui sont au paradis. Voilà cette belle conclusion des pères. La grâce donc conduit à la lumière éternelle et à la gloire, le péché à la plus profonde obscurité. Et donc il faut comprendre que lorsque nous vivons dans le péché, eh bien, nous sommes dans une cécité spirituelle terrible. Et que Le gros danger de rester dans le péché mortel, c'est une chose de tomber dans le péché mortel. Malheureusement, ça arrive. Hein. Des bons catholiques, même qui tombent dans le péché mortel, mais je dirais qu'une fois qu'ils sont tombés dans ce péché mortel, ils paniquent complètement, ils n'ont qu'une idée en tête, c'est se confesser au plus vite. Ils tombent à genoux, ils demandent pardon au bon Dieu, ils essaient de faire un acte de contrition parfaite. Ils vont se confesser au plus tôt, en faisant parfois des kilomètres et des kilomètres pour se confesser. C'est évident que quand on voit quelqu'un qui agit ainsi, on doit lui donner l'absolution tant que pas tout de suite. Parce qu'il montre qu'il regrette vraiment son péché. Voyez? Bon, on peut distinguer le péché mortel de faiblesse et le péché mortel de malice. Personne qui passe des mois et des mois dans le péché mortel, c'est un péché mortel de malice, attention. Quelqu'un qui tombe dans le péché occasionnellement, puis qui va se confesser immédiatement, c'est un péché mortel de faiblesse. Dieu pardonne beaucoup plus facilement un péché mortel de faiblesse. Donc je dis toujours aux gens qui m'en parlent, j'ai attention de ne pas rester dans le péché mortel. Parce que si vous restez plusieurs jours dans le péché mortel, alors que vous avez la possibilité de vous confesser, vous risquez de transformer un péché mortel de faiblesse en un péché mortel de malice. Et un péché mortel de malice va se transformer en vice. Donc il y a trois étapes: péché mortel de faiblesse, péché mortel de malice et vice. Une fois que le vice est là, ça veut dire que les racines du péché sont solidement ficelées à l'âme et que c'est beaucoup plus difficile de s'en débarrasser. Vous voyez, méditer sur la lumière divine. La lumière luit dans les ténèbres ne l'ont pas saisie. Donc la lumière, c'est la lumière divine, la lumière de la gloire, la lumière de la grâce, et aussi la loi naturelle qui luit dans les ténèbres du péché et dans les ténèbres tout simplement de l'ignorance. Les ténèbres de la faiblesse, les ténèbres de la malice, les ténèbres de la concupiscence, et les ténèbres ne l'ont pas saisie. On avance, nous passons Saint Jean chapitre 1 versets 6, 7 et 8, donc page 8. Il y eut un homme envoyé de Dieu dont le nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il vint pour rendre témoignage à la lumière. Bon, Saint Jean ici, c'est Saint Jean-Baptiste dont il est question. Donc il est celui qui amène à la lumière. On peut comparer Saint Jean qui amène à notre Seigneur Jésus-Christ à la Très Sainte Vierge Marie qui a le même rôle. Le rôle de la Très Sainte Vierge Marie, Très Sainte Vierge Marie n'est pas la lumière, mais elle amène à la lumière. On pourrait transformer le texte en disant: il y eut une femme envoyée de Dieu dont le nom était Marie. Elle vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Elle n'était pas la lumière, mais elle vint pour rendre témoignage à la lumière. Vous voyez, une belle comparaison à faire entre l'influence et l'action de Saint Jean-Baptiste pour préparer les âmes à venir à notre Seigneur Jésus-Christ. Le baptême de Saint Jean-Baptiste n'était pas encore un sacrement, mais il est celui qui allait préparer la venue du Messie, celui qui allait envoyer les premiers apôtres, les premiers disciples, Saint Pierre, Saint Jacques, Saint Jean, Saint André. Les premiers disciples étaient très souvent des disciples de Saint Jean-Baptiste. Et Saint Jean-Baptiste, non seulement ne va pas souffrir de voir notre Seigneur Jésus-Christ qui lui prend peu à peu tous ses disciples, mais au contraire, il va s'en réjouir en disant: il faut qu'il croisse et que moi je diminue parce que je ne suis pas digne de délier la courroie de sa sandale. Alors voyons un petit peu ce que disent les pères de l'Église sur ce passage-là, en bas de la page 8. Si un homme s'enferme dans une maison obscure et se prive ainsi de voir les rayons du soleil, la faute n'en est pas au soleil, mais bien à lui-même. Ainsi, Saint Jean-Baptiste a été envoyé afin que tous crussent par lui. Si ce but n'a pas été entièrement atteint, le saint précurseur n'en est pas la cause. Il n'est pas la lumière par excellence. Il n'est lumière que parce qu'il est entré en participation de la vraie lumière. Oui, c'est une belle formule des pères. Par la grâce sanctifiante, nous rentrons en participation à la véritable lumière. Beaucoup de gens commencent leur chemin vers Dieu par une lumière purement naturelle. Et puis, de la lumière purement naturelle, ils arrivent à la lumière de la grâce, et à partir de la lumière de la grâce, ils peuvent arriver un jour, espérons-le, à la lumière de la gloire. J'ai vu beaucoup de cas comme ça, de gens qui sont arrivés à la vérité par des moyens complètement détournés. Par exemple, pendant un temps, beaucoup de gens venaient. J'ai eu beaucoup de gens qui sont venus faire leur retraite avec moi, qui ont commencé à écouter les conférences que je mets sur Internet, en arrivant sur mon site par l'intermédiaire de sites politiques
qui n'étaient pas forcément catholiques d'ailleurs, mais des sites politiques qui étaient contre-révolutionnaires, avec parfois beaucoup de misère dans ces sites et beaucoup de choses fausses. Ça, je tiens à remercier Monsieur Livernet, qui par exemple, je crois qu'il vient de sortir de prison, donc prions pour lui. Je remercie Monsieur Livernet qui m'a amené à mon site et aux retraites beaucoup de gens qui sont rentrés, qui sont arrivés à la porte de la foi catholique et que j'ai pu baptiser parce qu'ils étaient. Ils étaient inscrits sur un site, le site politique de Monsieur Livernet, et par ce site, ils ont découvert les retraites. Oui. Donc il ne faut jamais, jamais se décourager. Nous sommes des instruments. Nous sommes des instruments, et ces instruments peuvent amener une âme à la participation de, tu vois, d'une vision naturelle de Dieu, une vision surnaturelle de Dieu. Oui. On voit très bien, c'est toute une série de personnes qui ont des qualités contre-révolutionnaires réelles. Je pense par exemple à Boris Lollet, à Anna Soral ou à Hervé Rissen, qui sont des gens qui ont une forte personnalité et qui ont des bonnes idées sur beaucoup de choses, des idées vraies sur beaucoup de choses. Mais il leur manque, de façon assez claire, et c'est très net chez monsieur Alain Soral, il leur manque souvent la vision de la foi. Alors, ils sont peut-être baptisés, je ne sais pas. Parfois, ils sont baptisés, mais manifestement, souvent, ils ne pratiquent plus. Bon. Monsieur Livernet, à ma connaissance, pratique maintenant de façon régulière. Mais je ne crois pas que Alain Soral pratique sa foi catholique. J'en sais rien, en fait. Je ne crois pas. Donc, vous voyez, il faut préparer un petit peu le terrain et se rendre compte que je peux, par l'exemple que je donne, je peux devenir instrument de la participation à la vraie lumière du voisin. Okay. C'est une belle phrase des Pères que je répète. Saint Jean-Baptiste n'était pas la lumière par excellence. Il n'est une lumière que parce qu'il est entré en participation à la vraie lumière. Une autre comparaison qu'on peut faire, c'est comparer Saint Jean-Baptiste au miroir. Un miroir par lui-même ne peut rien faire. Un miroir dans une chambre obscure sert absolument à rien. On ne voit rien. Vous pouvez vous mettre devant le miroir, vous verrez rien du tout apparaître sur le miroir. Mais le miroir a pour propriété de renvoyer la lumière. Donc vous pouvez capter avec un miroir la lumière du soleil et la renvoyer dans une direction complètement opposée. Bon. De plus, si la lumière vient frapper, la lumière du jour vient frapper le miroir, immédiatement, le miroir peut remplir son office et à ce moment-là, on peut se voir soi-même dans le miroir. Autre image des Pères, de même que l'étoile du matin précède le soleil, ainsi Saint Jean-Baptiste précède le Christ, le soleil de justice. De même que la lumière de la divinité était cachée dans l'humanité du Christ, comme dans une lanterne obscure qui empêcherait de voir la lumière, ainsi Dieu envoya Saint Jean-Baptiste pour dévoiler et rendre cette lumière manifeste et témoigner que Jésus est vraiment le Fils de Dieu, maître et rédempteur du monde. Donc une autre belle comparaison, Saint Jean-Baptiste est comparé à l'étoile du matin qui annonce, je crois que l'étoile du matin c'est l'étoile polaire, et qui annonce non seulement le nord, mais qui annonce, qui précède. Non, pardon, je crois que l'étoile du matin, je vous dis des bêtises, hein, je me demande si c'est pas Vénus, je mélange. Donc, l'étoile du matin annonce l'arrivée du soleil. Donc, une étoile qui se voit de nuit, parce qu'on ne voit pas les étoiles pendant la journée à cause de la clarté du soleil, l'étoile du matin annonce l'arrivée du soleil. Donc, c'est Saint Jean-Baptiste qui précède le Christ et qui annonce son arrivée, le soleil de justice. Donc, notre belle image ici des Pères de l'Église qui explique que la lumière de la divinité était cachée dans l'humanité du Christ, surtout pendant la Passion. Pendant la Passion, notre Seigneur Jésus-Christ va cacher son humanité, mais il reste Dieu. Attention, il a toujours la vision hypostatique, même pendant les affres de la Passion. Mais l'humanité cache la divinité. Et on ne verra que l'humanité du Christ. Et les disciples qui, dans notre Seigneur Jésus-Christ, n'ont vu que l'humanité du Christ, pas sa divinité. Ils ont vu les effets de sa divinité. Sauf cas très spécial, par exemple, pendant la transfiguration. sur le mont Tabor, Saint-Pierre, Saint-Jacques et Saint-Jean, qui étaient les privilégiés de notre Seigneur Jésus-Christ pour cette transfiguration, ont vu une petite partie de la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour ça que c'est difficile pour nous, parce que les apôtres, ils voyaient au moins l'humanité du Christ. Nous, on ne voit ni la divinité, ni l'humanité. On voit du tout. Pendant la Sainte Messe, lorsque le prêtre prononce les paroles de la Sainte Eucharistie et élève la Sainte Hostie, notre Seigneur Jésus-Christ est véritablement présent, substantiellement dans la Sainte Hostie. Ce n'est plus la substance du pain qui est présentée à notre regard, c'est la substance du corps, du sang, de l'âme et la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ sous les accidents du pain. Et pareil pour le calice, ce n'est plus la substance du vin qui est dans le calice après les paroles de la consécration, mais la substance du corps, du sang, de l'âme et de la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Après la première consécration, présence du corps par la force du sacrement, présence du sang, de l'âme et de la divinité par concomitance, et pareil pour la deuxième consécration. Après la deuxième consécration, il y a présence par force du sacrement du sang de notre Seigneur Jésus-Christ, et par concomitance aussi de son corps, son âme et sa divinité. Pour nous, donc, c'est plus difficile parce qu'on ne voit ni l'humanité, ni la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour ça qu'on ne peut pas croire à la présence réelle, substantielle de notre Seigneur Jésus-Christ après les paroles de la transsubstantiation sans la foi. Il faut la foi. C'est quelque chose que, évidemment, les païens ont mal fou à comprendre. Ils ne peuvent pas comprendre ça parce qu'il leur manque une lumière. Ils sont comme des taupes, si vous voulez, qui ne voient pas, qui ne peuvent pas voir la divinité qui rayonne derrière l'humanité. Alors, évidemment, la difficulté, c'est que la substance du corps et du corps, la substance du pain et du vin ont disparu après les paroles de la consécration, mais les accidents demeurent. Les accidents du corps, par exemple, excusez-moi, les accidents du pain et les accidents du vin, eux, demeurent. Donc ce n'est plus du pain, c'est le corps de notre Seigneur Jésus-Christ, mais avec les accidents du pain. Ce n'est plus du vin, mais le sang de notre Seigneur Jésus-Christ, mais avec les accidents du vin. Ce sont les accidents. Pour le vin, par exemple, ce sera la couleur du vin qui ne va pas changer, la quantité de vin qui ne va pas changer, le poids du vin, le degré d'alcool du vin. Lorsque le prêtre consomme le calice, le contenu du calice après la consécration, à la fin de la messe, eh bien, le goût du liquide qu'il va consommer, c'est le goût du vin. Et s'il en prenait trop, eh bien, l'alcool du vin pourrait enivrer le prêtre. Pourtant, ce n'est plus du vin. C'est la substance du sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est la même chose pour vous, les fidèles, quand vous communiez, que le prêtre dépose sur votre langue la petite hostie consacrée qui contient véritablement le corps de notre Seigneur Jésus-Christ, vous avez l'impression de manger du pain. Un pain sans azime, mais pourtant ce n'est plus du pain, c'est le corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc nous sommes des en quelque sorte des baudruches qui contenons à l'intérieur de cette baudruche une âme qui est capable de connaître Dieu, substance spirituelle douée d'intelligence et de volonté, voyez. Une lanterne obscure qui empêcherait de voir la lumière. Ainsi, Dieu envoya Jean-Baptiste pour dévoiler et rendre cette lumière manifeste. Donc nous devons être des instruments pour rendre manifeste aux gens dont nous avons la charge la lumière divine. Alors, passons à la page 9. Un texte de Théophylacte, un père de l'Église. Donc, encore d'autres distinctions intéressantes des pères. Le Sauveur nous parle de plusieurs lumières. Il n'était pas la lumière, mais il vint pour rendre témoignage à la lumière. Donc, il y a plusieurs lumières, dit Théophylacte. D'abord, il y a la lumière de l'intelligence, ou de la parole intérieure, par laquelle l'âme s'éclaire elle-même, mais pas que l'intelligence, l'objet de l'intelligence, c'est le vrai. Il y a la lumière de la parole extérieure, par laquelle nous éclairons les autres, c'est le verbe que nous prononçons, le verbe physique, si vous voulez. Et encore, dit Saint Grégoire, la lumière des œuvres par laquelle nous élevons vers Dieu la pensée de ceux qui en sont témoins. Et cette lumière des œuvres est grandement utile. De même que la lumière fait fuir les ténèbres, dit Saint Pierre Chrysologue, la lumière des bonnes œuvres fait fuir le mal. Pourquoi ? Parce que la lumière des bonnes œuvres, c'est en fait aussi une conséquence de la lumière de charité. Pour faire des bonnes œuvres, un tas de péchés mortels
Mais les péchés, si on est atteint de péchés mortels et qu'on pratique les bonnes œuvres, même pour aider tous les pauvres de la planète, eh bien, ça vaut rien pour votre âme, si vous êtes en état de péché mortel. Par contre, si je suis en état de grâce, la lumière de mes bonnes œuvres, qui est la vertu de charité, qui peut à ce moment-là éclater dans mes bonnes œuvres, va faire fuir le mal, va faire fuir le démon. Donc la lumière de l'intelligence ne peut pas être éteinte dans une âme. C'est impossible, une âme humaine. Malheureusement, la lumière de la grâce peut être éteinte et la lumière de la gloire, tant qu'elle n'est pas possédée, ne peut pas rester, ne peut pas demeurer dans une âme. On ne peut pas voir Dieu sans mourir, disaient les pères. Et donc la lumière de gloire, c'est la lumière du paradis, qui est une lumière ineffable, une lumière éternelle. Et la lumière naturelle de la raison disparaîtra au ciel, parce qu'on sera tellement englobé dans la lumière divine qu'on n'aura plus besoin du tout de la lumière naturelle. Alors, d'autres commentaires des pères, très beaux. Le Christ est appelé la vraie lumière, page 9. Le Verbe est la lumière originelle, incréée, essentielle. Saint Jean-Baptiste et les autres saints ne sont des lumières que par participation et communication du Verbe. Donc on reprend ici les mêmes termes d'autres pères. Il n'est pas la lumière par excellence, il n'est lumière que parce qu'il est entré en participation à la vraie lumière. Mais ici, il y a un autre synonyme qui est ajouté, participation et communication du Verbe. Donc, c'est pas la. On peut prendre une autre comparaison. Si vous voulez imaginer une lampe à huile, sans huile, elle ne peut pas brûler, même si le réceptacle en argile est sans fissure, même s'il y a une bonne mèche qui est en bon état, et s'il n'y a pas d'huile, bien vous pouvez mettre la flamme sur la mèche, elle ne brûlera pas votre mèche, parce qu'il manque l'aliment, il manque le combustible. Eh bien, c'est la même chose pour nous. La grâce ne peut fleurir dans une âme que par participation et communication du Verbe. La grâce est un don gratuit de Dieu qui donne à une âme quand il le veut et comme il le veut. Vous voyez ? Par la comparaison avec le Christ, Saint Jean-Baptiste et les autres saints ne méritent pas le nom de lumière, étant infiniment dépassés par la clarté de la lumière divine. C'est pour ça qu'il a dit « Il faut qu'ils croient ce que je diminue. » Vous voyez ? Nous ne sommes rien, nous sommes vraiment des enfants entre les mains du bon Dieu. Deuxième commentaire des pères, le Christ seul est lumière et seul en mérite le titre. Dieu est celui qui est, je suis celui qui est. C'est l'expression qu'il a utilisée quand il a parlé pour la première fois à Moïse dans le désert. Moïse gardait, vous le savez, ses troupeaux, les troupeaux de son beau-père, Jéthro, troupeau de biquette sans doute. De chèvre, et il a vu dans le désert, en plein désert, un buisson qui brûlait sans être consumé. Et il a entendu une voix qui lui parlait. C'est le premier contact de Moïse avec la divinité, notre Seigneur Jésus-Christ. Et quand Moïse a demandé, mais qui êtes-vous? Je suis celui qui suis. Donc c'est là. Les pères de l'Église expliquent que ce buisson qui brûle sans être consommé, sans se transformer en cendre, représente le mystère de l'incarnation. Donc c'est un symbole de l'incarnation qui ne s'est pas encore, qui n'est pas encore arrivé. N'oubliez pas que l'incarnation va arriver des milliers d'années plus tard. Mais déjà, c'est le même Dieu qui parle. Donc le même Dieu qui parle à Moïse sera le même Dieu qui parlera à notre Seigneur Jean-Marie pendant 33 ans. Et le même Dieu qui parle dans nos âmes par la grâce sanctifiante. Et le même Dieu que nous adorons au ciel. Alors, donc il est l'être vrai, essentiel, éternel, infini, et toutes les créatures ont comme une étincelle d'être qui vient de Dieu. C'est pour ça qu'il dit que l'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Mais l'image de Dieu, c'est notre âme. La ressemblance de Dieu, c'est la grâce. Mais déjà, dans notre âme, il y a quelque chose, une étincelle divine, c'est un terme qui est utilisé par les pères. Bon, il faut faire un petit peu attention à l'utilisation de ce terme. C'est vrai qu'il y a une étincelle divine dans toute âme. L'existence d'une intelligence dans toute âme, tout homme a une âme, donc toute âme a un pouvoir d'atteindre le vrai, puisque l'objet formel de notre âme, de notre intelligence, c'est le vrai. Cependant, même s'il y a une étincelle d'être qui vient de Dieu dans toute âme, par surtout l'existence d'une âme,
On n'est pas créé à l'image de Dieu par notre corps, bien sûr que non, puisque Dieu n'a pas de corps. Mais on est créé à l'image de Dieu par l'existence d'une âme, et on est créé à la ressemblance de Dieu par l'existence de la grâce sanctifiante dans cette âme. Donc, le problème, c'est que cette étincelle, on a l'impression qu'elle est un peu éteinte maintenant chez certaines personnes. Il y en a qui disent, moi j'ai longtemps dit ça, maintenant je ne dis plus, je trouve ça un peu dangereux, je regrette de l'avoir dit dans le passé. Je disais souvent qu'on avait un peu l'impression que chez certaines personnes, à force de vivre dans le péché, chez des païens ou des grands ennemis de l'Église, à force de vivre dans le péché, on avait l'impression que même la lumière naturelle était éteinte. Mais je ne dirai plus ça maintenant, parce qu'à mon avis, c'est imprudent de dire ça comme ça. Parce que la lumière naturelle ne peut pas être éteinte tant que l'homme est vivant. Alors, on peut dire que la lumière naturelle, d'une certaine façon, sera éteinte en enfer, évidemment. Mais ici-bas, la lumière naturelle demeure, parce que tant qu'il y a âme, il y a lumière naturelle. Même chez un païen, même chez quelqu'un qui vit dans le péché mortel. Donc, l'existence de tous les hommes, de Saint Jean-Baptiste et des autres saints, est imparfaite comme l'ombre de l'être infini qui remplit l'immensité, qui est l'ipsum esse subsistens, c'est-à-dire l'être lui-même qui subsiste, l'être qui subsiste par lui-même. Je suis celui qui suis, je suis celui qui est, disait notre Seigneur Dieu à Moïse. Bon, nous sommes celui qui n'est pas. Dieu est l'être par lui-même, nous sommes être par participation. Nous sommes comme l'ombre, si vous voulez, de l'être. Nous n'avons qu'une divinité en nous, mais on a un reflet de la divinité. Si vous voulez, de même qu'un aveugle qui ne voit pas la lumière du soleil est néanmoins éclairé par le soleil. Il ne le voit pas, il ne voit pas cet éclairage puisqu'il est aveugle, mais il est éclairé par le soleil. Mais c'est la même chose pour nous. Troisième commentaire des Pères, le Christ est la vraie lumière du monde. Parce que sa foi et sa doctrine sont opposées aux erreurs et aux fausses doctrines des philosophes païens, des hérétiques et des athées. Donc je reprends, le Christ est la vraie lumière du monde parce que sa foi et sa doctrine sont opposées aux erreurs et aux fausses doctrines des philosophes païens, des hérétiques et des athées. La vraie lumière est pure, sincère, véritable et rien en elle n'est feint, obscur ou imparfait. Et donc encore une fois, ici les pères expliquent bien que la lumière de la foi, la lumière de la grâce, la lumière de la gloire, la lumière divine est opposée à l'obscurité du péché. Quand le père de l'Église parle des fausses doctrines, des philosophes païens, des hérétiques et des athées, c'est le péché qui est représenté là. Alors qu'au contraire, la vraie lumière est brillante, toute brillante de pureté, de sincérité, de vérité. Il n'y a rien en elle, ni de fin, ni d'obscur, ni d'imparfait. Donc il faut demander au bon Dieu d'être la lumière du monde. La lumière du monde, ce n'est pas notre Seigneur Jésus-Christ. À la fin du baptême, on le dit expressément, c'est qu'à la fin du baptême, le prêtre, après avoir remis un vêtement blanc sur le corps du bébé qu'on baptise, de l'adulte qu'on baptise, il va donner soit à l'adulte qu'on baptise, soit au parrain, en cas d'un bébé qu'on baptise, il va donner une lumière, il va donner un cierge allumé. Et quand on le peut, on allume le cierge qu'on donne au parrain à la fin du baptême, au cierge pascal. C'est qu'en principe, quand on peut le faire, à chaque fois qu'on fait un baptême, le baptême de bébé dans la chapelle, eh bien, on amène le cierge pascal, qui est en général gardé à la sacristie, parce que le cierge pascal n'est gardé dans l'église que depuis le jour de Pâques jusqu'au jeudi de l'Ascension. Mais après l'Ascension, on le garde, mais on le garde à la sacristie en général. Moi, il est dans mon bureau, et quand j'ai un baptême dans ma chapelle, je sors le cierge pascal avant le baptême de mon bureau et je l'apporte dans la chapelle et je l'allume pendant tout le baptême. Et au moment où je dois donner le cierge allumé, un petit cierge allumé au parrain, je vais allumer le cierge allumé au cierge pascal qui représente le Christ. Vous voyez pas que les cinq clous qu'on met dans le cierge pascal représentent les cinq plaies de notre Seigneur Jésus-Christ. Bon. Et voilà la prière que le prêtre va dire en donnant ce cierge pascal à l'enfant ou au parrain. Recevez cette lumière, gardez sans défaillance la grâce de votre baptême, observez les commandements de Dieu, ainsi quand le Seigneur viendra pour les noces éternelles, vous pourrez aller à sa rencontre avec tous les saints dans la cour céleste et vivre dans les siècles des siècles. Gardez sans défaillance la grâce de votre baptême, ça veut dire quoi? Ça veut dire garder la lumière de votre innocence allumée tout le temps. Et ce qui est extraordinaire quand on baptise un petit enfant, c'est que, je le dis souvent aux parents, dans les baptêmes, vous avez maintenant le Saint-Sacrement à la maison, parce que votre enfant est baptisé. Vous voyez? Et la plus triste qui puisse nous arriver ici-bas, c'est de perdre cette grâce sanctifiante. Vous voyez? C'est terrible, même pour nous, prêtres, quand on se rend compte qu'un enfant accuse pour la première fois un péché mortel. Premier péché d'un enfant. Saint Thomas va jusqu'à dire que le premier péché d'un enfant est automatiquement un péché mortel. Donc il faut faire attention à la façon d'expliquer ça, mais c'est sûr que l'ange gardien de l'enfant doit pleurer toutes les larmes de sa nature angélique au premier péché mortel de son protégé. Et donc attention à garder en nous cette flamme de reçue au baptême. Ben, c'est évident que si je me promène dans la rue avec mon cierge allumé, en ne protégeant pas la flamme, le moindre souffle de vent va éteindre la flamme. Et donc malheur à celui qui ne garde pas cette flamme allumée. Donc gardons la flamme de notre baptême allumée, c'est-à-dire gardons l'état de grâce en notre âme. Autre commentaire, comme le Christ nous illumine d'une manière bien plus véritable et parfaite que n'importe quelle lumière corporelle, la lumière spirituelle seule mérite le nom de lumière, dont la lumière corporelle n'est que l'ombre. Donc la lumière corporelle par rapport à la lumière spirituelle est comme l'obscurité que par rapport à la lumière du soleil. On peut comparer, une autre comparaison qu'on pourrait faire peut-être, c'est que la lumière naturelle est comparée par exemple à la lumière de la lune, peut-être comparée à la lumière de la lune, alors que la lumière de la grâce sera comparée à la lumière du soleil. Bon, c'est une simple comparaison. La lumière de la lune est très faible. Même quand on la voit dans la journée, bon, ou dans la nuit, quand même une belle nuit avec une pleine lune, la lumière donnée par la lune est quand même relativement réduite par rapport à la lumière du soleil. Bien, c'est un peu la même chose. La lumière de la lune est à la lumière naturelle, ce que la lumière du soleil est à la lumière éternelle de notre Seigneur Jésus-Christ, à la lumière de gloire ou à la lumière de grâce. Bon, encore une fois, ce n'est qu'une comparaison, parce qu'en fait, la grâce, même si ce n'est qu'une chose créée, la grâce est créée, attention, Dieu seul est un créé. Donc la grâce sanctifiante est créée dans notre âme et va illuminer notre âme, et va rallumer notre âme, la lumière de notre âme. Imaginez quelqu'un qui a éteint malheureusement à cause de ses imprudences spirituelles, il a éteint la flamme de son cierge de baptême dans son âme. Eh bien, quand il se confesse, qu'il fait une bonne confession, il va rallumer de nouveau cette flamme. À moi maintenant de la conserver dans son intégrité. Son intégrité. Le Christ, de la même manière, nous dit qu'il est la vraie vigne ou le vrai pain. On appelle souvent vrai ce qui est parfait ou excellent. Donc notre Seigneur Jésus-Christ est la vraie lumière. Oui. La lumière luit dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas saisie. Donc je dois moi aussi rendre témoignage à la lumière. Et comment voulez-vous rendre témoignage à la lumière si dans votre façon de vivre, dans votre façon de vous habiller, dans la façon d'éduquer vos enfants, votre comportement social, familial, professionnel, vous n'agissez pas comme un catholique? Comment voulez-vous qu'une jeune fille qui se promène en mini-jupe ou en vêtement indécent dans une ville puisse être la lumière du monde? C'est impossible. Comment voulez-vous qu'un jeune homme qui écoute de la musique rock à longueur de journée ou du rap toute la journée, comment voulez-vous qu'il puisse être la lumière du monde? Il n'y a plus de lumière, il est l'obscurité. Au lieu d'illuminer les gens qui passent autour de lui, qui sont dans l'obscurité eux-mêmes, eh bien, il n'illumine rien du tout parce qu'il est aussi obscur qu'eux. Hein? Autre commentaire. Le Christ est aussi la vraie lumière parce qu'il la diffuse plus totalement et largement dans toutes les directions. Illumine tout homme qui vient en ce monde, toutes les créatures depuis le début du monde font dériver du Christ leur lumière de foi et de grâce. Ainsi, Saint Jean-Baptiste ne fut une lumière qu'en Judée, un petit coin du monde, et seulement au jour d'Hérode. Et ensuite, les apôtres, après la résurrection de notre Seigneur, après l'ascension et la Pentecôte, surtout, les apôtres vont partir dans le monde entier pour allumer la lumière. Et un petit feu peut, une petite flammèche peut enflammer la terre entière. Pour allumer un feu, une forêt, il suffit d'allumer une flamme quelque part dans la forêt sur des aiguilles de pin sèche et toute la forêt va flamber. Bon, mais il faut que vous soyez, que nous soyons tous la lumière du monde. Vous voyez, c'est tellement important de voir cette lumière. Pour nous, c'est capital en tant que prêtre. C'est pour ça que le prêtre doit porter sa soutane, parce que la soutane est une lumière extraordinaire malgré sa couleur noire. C'est une lumière extraordinaire dans le monde. J'ai encore allé faire des courses aujourd'hui à Albi, dans un grand magasin, une grande surface, et je suis sûr, on le voit, même si les gens ne disent rien, on voit tous les jeunes, les enfants même, qui se retournent vers le prêtre, même parfois pour se moquer, hein, et ils disent ah, maman, regarde, il y a un monsieur avec une robe là. Bon, ils n'ont pas compris qui on est, mais tous les regards se tournent vers le prêtre parce que les gens n'ont plus vu une soutane depuis, hein, qui n'ont jamais vu de soutane de leur vie. Bon, ceux qui ont vu donc Abio connaissent encore ce que c'est qu'un prêtre en soutane, mais ça s'arrête là. Vous voyez? Parfois, on a régulièrement, encore arrivé quelques jours, des gens qui viennent nous saluer, et puis bonjour mon père, et puis parfois tout simplement pour dire merci mon père pour la soutane. Parfois des phrases toutes simples, des phrases toutes simples, merci mon père pour la soutane, ça fait du bien, c'est du bien de voir, du plaisir de voir qu'il y a encore des prêtres en soutane. Même des petits détails, mais qui rendent un peu confiance en l'humanité. C'était ce matin, je crois, ce matin. Je suis allé acheter des piles. C'est tout ce que j'avais acheté dans le grand magasin. Un paquet de piles. J'avais besoin pour mon petit enregistreur avec lequel je fais les conférences. Eh bien, j'ai acheté le paquet de piles. C'est tout ce que j'avais dans la main. Donc, deux petites boîtes de 6 piles chacune. Des piles triple A. C'est tout ce que j'avais dans la main. Puis j'arrive, et il y avait devant moi, aux caisses pour payer, il y avait devant moi une dame qui était manifestement musulmane. Manifestement musulmane. Et elle avait un chariot plein de victuailles et de choses qu'elle avait achetées dans le magasin. Et elle était en train de déposer tout ça sur le tapis. Et moi, quand j'ai vu tout ce qu'elle avait sur le tapis, j'ai dit, bon, j'en ai pour 10 minutes à attendre. Je vais aller sur un autre tapis de caisse pour... passer plus vite. Elle m'a vu en soutane. Et je m'étais déjà éloigné d'elle. Elle m'a rappelé, monsieur, monsieur, revenez. C'est tout ce que vous avez? Je lui dis, oui, c'est tout ce que j'ai. Elle me dit, mais passez devant moi. Elle m'a fait passer devant. C'était une musulmane. J'ai remercié chaudement. J'ai dit, merci, madame. Vous voyez? Mais, bon, vous allez me dire, mais ça n'a rien à voir. C'est pas surnaturel. C'est pas surnaturel, mais Dieu a promis qu'il ne laisserait pas un verre d'eau donné à un pauvre sans récompense. Les musulmans, ils sont très anticatholiques en général. Bon, parce que l'islam est incompatible avec le christianisme. Et pourtant, cette femme qui est manifestement islamique, elle avait une espèce de voile islamique, manifestement elle était musulmane, eh bien, elle a laissé passer un prêtre catholique devant elle. Et c'est déjà quelque chose. Vous voyez, il faut remercier le bon Dieu pour tout ça. Voilà. Autre commentaire des pères, donc, sur ce verset de sur la lumière, n'était pas la lumière, mais il vint pour rendre témoignage de la lumière. Saint Jean-Baptiste et les autres, c'est des autres saints, ne pouvaient enseigner leurs auditeurs qu'extérieurement par la voix, mais ne pouvaient pas eux-mêmes illuminer les âmes. Mais le Christ peut faire les deux, peut frapper à la fois les oreilles et les âmes. C'est pourquoi le Christ est toujours appelé par Jean-Baptiste la vérité. Lui-même nous dit « Je suis la voie, la vérité et la vie ». Dans le Christ sont toutes les vérités, dans l'existence, les âmes, les mots, les actions. Donc il faut comprendre que quand Dieu dit « Je suis la voie, la vérité et la vie », l'intelligence et la volonté étant identiques en Dieu, l'intelligence est divine, donc la voie c'est la voix divine, la vérité divine, la vie divine. Dieu est, E-S-T, la voix, il est la vérité, il est la vie. Nous, on ne peut pas dire des choses comme ça. On peut pas dire, on peut dire que l'Église catholique est la vérité, mais on ne peut pas dire « je suis la vérité ». On peut dire « j'appartiens à la vérité, j'appartiens à la véritable Église ». Mais « j'appartiens à la véritable voie, j'appartiens à la véritable vie ». Mais on ne peut pas dire « je suis la vie ». Dieu seul peut dire ça. Non seulement Dieu est la voie, la vérité et la vie, mais il est la source de toute voie, de toute vérité et de toute vie. Avançons avec le verset 9 du chapitre 1 de Saint Jean. « C'était la vraie lumière qui éclaire tout homme venant en ce monde ». Pourquoi Saint Jean-Baptiste ajoute-t-il le mot vrai, la vraie lumière? Bon. En fait, c'est pas Saint Jean-Baptiste qui ajoute ça, c'est Saint Jean, l'évangéliste Saint Jean, pardon. Bon, pourquoi Saint Jean, évangéliste, ajoute-t-il le mot vrai? C'était la vraie lumière. C'est qu'on donne aussi à l'homme qui est éclairé le nom de lumière. Mais la vraie lumière est celle qui éclaire elle-même. Donc, ici, il faut faire une autre distinction entre la vraie lumière et les fausses lumières. Les lumières du monde sont les fausses lumières. Il y a une lumière qui éclaire, une lumière qui élève, une lumière qui réchauffe, une lumière qui nous oblige à monter les yeux vers le ciel, et une lumière qui est une lumière ténébreuse, une lumière fausse, une lumière glauque. On peut comparer ça, si vous voulez, à une lumière qui attire dans la pénombre, en pleine nuit, une nuit d'été, vous mettez une lumière à l'extérieur, et toutes les moustiques et les petits insectes volants vont être attirés par la lumière, vont commencer à voltiger autour de la lumière et vont se brûler à l'ampoule s'ils ont le malheur de la toucher avec leurs ailes. On va entendre un petit bruit de crissement et on va voir un insecte mort brûlé par la chaleur dégagée par la lampe. Eh bien, là c'est la même chose. Il y a notre Seigneur Jésus-Christ est la vraie lumière du monde, mais le problème c'est que le démon se présente aussi comme étant la lumière. Mais lui est une lumière ténébreuse. C'est ahurissant de dire une lumière ténébreuse, mais c'est exactement ce qu'est le démon. Le démon est une fausse lumière. Et pour pouvoir attirer les âmes à sa suite, comme la lumière électrique attire les petites bestioles qui volent les vols de nuit, les petits papillons de nuit, eh bien, le démon qui est le prince des ténèbres, qui est le singe de Dieu, va prétendre être la véritable lumière, alors qu'il n'est qu'une imitation, qu'une ombre de lumière. Vous voyez ? Il prétend être une lumière. Donc faire attention, ne pas prendre toutes les lumières qui sont autour de nous comme étant les véritables lumières. Il y a une véritable lumière et des millions de fausses lumières. Il y a un véritable Dieu, des millions de faux dieux, une véritable église et des tas de fausses églises. Et tant qu'on n'a pas compris ça, ben on peut se faire avoir. Pour ça que les gens qui nous parlent, par exemple, actuellement toutes ces calomnies contre l'Église et toutes ces horreurs qui sont sorties concernant les turpitudes, hélas, de certains prêtres contre des enfants, hélas, et malheureusement, eh bien, il faut bien. Et quand les gens m'ont parlé, m'ont dit, mais oui, c'est quoi votre Église? Regardez-moi ça encore, tous ces scandales. C'est vrai que ce sont des scandales épouvantables, mais il faut faire attention que ce n'est pas l'Église catholique, ça, c'est l'Église de Vatican II. Bon, ceci dit, malheureusement, même dans l'Église catholique, même parmi des prêtres qui ont reçu des grâces extraordinaires, il peut y avoir, hélas, des gros péchés qui se commettent, et même dans ce domaine, hélas. Mais ce n'est pas parce que Judas a trahi que ça veut dire que tous les apôtres sont restés des traîtres. Ce n'est pas parce que Saint-Pierre a trahi que tous les apôtres étaient des traîtres. Saint-Pierre a trahi, mais il a été pardonné parce qu'il a demandé pardon. Judas n'a pas été pardonné. Il y a des Judas et il y a des Saint-Pierre convertis. Hein. Saint-Pierre est allé au ciel, non pas par sa triple trahison de notre Seigneur, il est allé au ciel par son regret de la trahison. Mais, donc nous, ceux aussi, sont appelés des lumières, et cependant, c'est en vain que ces lumières sont ouvertes, si pour les éclairer, on allume une lampe pendant la nuit, ou si pendant le jour, le soleil ne répand sur eux ses clartés. Que le manichéen rougisse d'oser dire que nous sommes l'œuvre d'un créateur mauvais et ténébreux, car jamais nous ne pourrions être éclairés si nous n'étions des créatures de la véritable lumière. Alors, les manichéens, la secte manichéenne, il y a plusieurs noms hein, des manichéens, les albigeois, la secte albigeois, c'est pareil, ce sont des manichéens, les cathares, la secte des cathares, c'est aussi, sont aussi des manichéens. Manichéen, c'était essentiellement au début de l'histoire de l'Église, ça a commencé au temps de Saint-Augustin. Saint-Augustin a beaucoup combattu le manichéisme. On retrouve ça chez les cathares, les albigeois, à peu près d'ici, c'était un grand foyer d'hérésie albigeoise. C'est Saint-Dominique qui a lutté contre l'hérésie cathare et qui a reçu le rosaire tout proche d'ici, c'est pour ceux qui viennent me voir ici à Padiès. Eh bien, je les envoie toujours visiter l'église Notre-Dame de la Drèche, qui est à l'entrée d'Albi. Et à Notre-Dame de la Drèche, qui est une église dont le cœur est encore du XIIe siècle, c'est là que la Très Sainte Vierge Marie est apparue à Saint-Dominique et lui a donné le rosaire. Donc, Saint-Dominique a vu la Sainte Vierge à Notre-Dame de la Drèche, à l'entrée d'Albi. Notre-Dame de la Drèche est le lieu français, c'est-à-dire à la droite du Tarn. Hein. Donc les manichéens pensaient qu'il y avait deux dieux, un dieu du bien et un dieu du mal. Donc le dieu du bien, c'était le dieu de l'esprit, le dieu du mal, c'était le dieu de la matière. Bon, on voit un petit peu les conséquences. Donc ils ne voulaient pas du mariage, ils ne voulaient pas la procréation, donc ils acceptaient l'avortement, parce que engendrer des enfants dans le mariage, c'était augmenter la matière. Vous voyez, donc, ce genre de bêtises, mais avec des conséquences énormes. Sur le plan social, sur le plan intellectuel et sur le plan moral surtout. L'Église a bien du mal à éradiquer ces hérésies abominables. Jamais nous ne pourrions être éclairés si nous n'étions les créatures de la véritable lumière. Par notre baptême, par la grâce sanctifiante, nous appartenons à la véritable lumière. Si vous voulez, nous participons à... Nous communiquons, rappelez-vous la phrase des Pères, nous devenons des lumières que par participation et communication au Verbe divin. Donc nous participons au Verbe divin, à la lumière du Verbe divin. Nous devenons nous-mêmes lumineux, comme si vous voulez, on peut comparer la lumière de l'âme en état de grâce à une lampe qu'on branche sur une prise de courant. Vous voyez ? Donc la lampe n'est pas branchée sur la prise de courant, ben, elle ne sert à rien, la lampe, elle ne boule pas du tout, elle n'éclaire rien du tout. Mais vous la branchez sur la prise de courant et la lampe éclaire. Mais cette lumière, elle vient en fait de la puissance que donne le courant électrique. Oui. Cette lumière donc, qui nous est donnée de Dieu, conclut les Pères, c'est l'intelligence dont il nous a doués pour nous diriger ici-bas. Intelligence qui s'appelle aussi la raison naturelle. J'ai déjà expliqué tout ça. Mais un grand nombre, par le mauvais usage de la raison, se sont jetés eux-mêmes dans les ténèbres. Voyez. Donc il ne faut pas se décourager. Même les parents qui m'écoutent et qui ont des enfants qui ont un peu tout envoyé promener, il ne faut pas qu'ils se découragent, même si ce n'est pas facile tous les jours, loin de là. Le bon Dieu nous donne les grâces dont on a besoin, il vous donnera les grâces dont vous avez besoin pour que vos enfants puissent redevenir participation à la lumière en communiquant, en recevant cette lumière de vous, vous voyez. Une comparaison un peu naturelle, un peu physique, mais si vous tenez la main de quelqu'un et que vous mettez, vous recevez une décharge électrique, ben la décharge électrique elle va aussi passer à celui que vous tenez par la main. Bon, de la même façon, si quelqu'un est lumière et tient quelqu'un d'autre par la main, eh bien il va transmettre sa lumière à celui qui le tient par la main. Eh bien, vous deux, vos parents qui m'écoutez, vous tenez par la main, vos propres enfants. Donc, ne vous découragez pas si un grand nombre de jeunes, par le mauvais usage de la raison, se sont jetés eux-mêmes dans les ténèbres. C'est une espèce de suicide moral. Des gens qui vivent dans les ténèbres du péché, qui ne cherchent pas à s'en tirer, sont des suicidaires, littéralement. Il n'y a rien de pire que quelqu'un qui reste dans le péché mortel alors qu'il pourrait se confesser. Oui, c'est... C'est pour ça que je pose toujours la question quand quelqu'un m'accuse d'un péché mortel en confession. Je pose toujours la question, est-ce que vous avez commis ce péché il y a longtemps? Ah oui, monsieur l'abbé, j'ai commis ce péché il y a 3 mois, par exemple. Vous êtes resté dans un tel péché mortel pendant 3 mois? Ah oui, monsieur l'abbé. Alors il faudrait vous enfermer avec les fous, je dis. Parce que c'est non seulement gravissime que vous ayez commis un péché mortel, mais que vous soyez resté dans le péché mortel pendant 3 mois, c'est encore bien plus grave. Et j'explique ces choses-là pour que les gens prennent justement la résolution de ne plus pécher. Bon, on va arrêter là, ça fait 1 heure que je vous garde. On va terminer par une prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous, Saint Pédis, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Saint Jérôme, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.